vendredi à 14h en mode week-end avec vous autres, avec Audrey, avec Véro. Bye!
Bye!
What's up? It's Jacoby from Papa Roach, and you're listening to the best radio in Quebec City, Boulevard 102.1.
Boulevard 102.1, c'est Marceau, le matin, le point de Max. On en jase le midi et Gravel dans le retour. Sans oublier les rendez-vous incontournables. Le Pit Stop avec Denis Gravel, 7h45. L'Open Mic d'Audrey Pinchot, 11h. Le Caucus avec Antonin Iaccarini à midi.
All right.
Boulevard 102.1, maintenant 100% parlé en semaine.
100% talk.
Une propriété Leclerc Communication.
Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le soir.
Gabriel Hardy, député conservateur de la circonscription Montmorency-Charlevoix. C'est un plaisir de vous parler ce soir.
Salut, comment ça va?
Ça va très bien, mais moi de mon côté...
Moi, là, je suis shake et raide, j'étais pas prêt à ça.
Moi de mon côté, je me pose des questions sur Gabriel Hardy parce que je l'ai connu comme homme d'affaires, je l'ai connu comme intervenant à la radio dans des dossiers où on parlait de sport. Là, maintenant, je connais le député Gabriel Hardy, mais c'est énormément de travail, le travail d'homme d'affaires et de député. Est-ce que tu es capable de concilier les deux tout en étant capable de dormir au travers de ça?
Oui, ça prend une très bonne équipe. Hein, la vie, t'as personne qui est une armée d'un seul homme. Là, donc, j'ai tellement de bonne équipe au gym, notamment à Québec, chez Tonic. Eric fait un job exceptionnel. J'ai des associés en or qui m'aident beaucoup aussi. Donc, je suis plus rendu dans un rôle de conseiller. Pour être honnête, je crois avoir amené mon gym à Québec, le Tonic, à un point où est-ce que je suis excessivement fier de ce que j'ai laissé avant de partir en politique. Et mon équipe est incroyable pour amener ça plus loin. Il y a des beaux dossiers qui s'en viennent, des beaux projets encore, mais ouais, ça prend une équipe, sinon tu n'y arrives pas. Puis tu sais, là, on parle de la business, la famille, je veux dire, ma femme, encore une fois, c'est un bon coup sur la famille. Je passe mes semaines à Ottawa maintenant, je suis à la maison les fins de semaine, puis encore une fois, tu es à la maison, mais tu te promènes, tu t'en vas voir des organismes, des maires, des mairesses, des préfets, des business, tu sais, tu te promènes sur le terrain. Alors, ça prend une bonne équipe à la maison aussi pour être capable d'amener la famille à avancer. Fait que ça prend du temps, c'est une bonne dédication au monde là, de se donner comme ça, mais c'est tellement stimulant, là, j'adore ce que je fais.
Ça ressemble à quoi quand on rentre à Ottawa comme député de Montmorency-Charlevoix? Comment on t'accueille? Comment on t'a montré ton bureau? Quand tu sièges en chambre, est-ce qu'on te titre un siège à toi qui va t'appartenir pour les 4 prochaines années? Est-ce qu'on te dit quand est-ce que tu dois parler, quand est-ce que tu dois surtout ne pas parler? C'est quoi ta relation avec Pierre Poilievre? Réponds à toutes ces questions.
OK, on va y aller une à la fois. Alors, ça a été un départ en chambre exceptionnel. Premièrement, je suis excessivement chanceux de représenter la région de Montmorency-Charlevoix, qui, à mon avis, est une des régions les plus belles, je dirais, au Canada, que ce soit le point de vue historique. On est la circonscription qui a fondé le Québec et le Canada. Donc, on part de 1535 avec l'île aux Coudres. Jacques Cartier donne le nom, l'île aux Coudres, fait la première messe francophone en Amérique là-bas. Après ça, 1602, 1603, Samuel de Champlain arrive à Baie-Sainte-Catherine, 1608. Bon, on le sait, il est arrivé jusqu'à Québec, mais évidemment, il a parcouru le fleuve. Donc cet été, je me suis donné comme défi de courir la circonscription et de parler de chacune des villes. J'ai fait un vidéo par ville pour parler de l'histoire, mettre l'activité physique à travers ça, puis parler de l'histoire de chaque région avec des drones et tout ça, c'est génial. Alors, quand je suis arrivé au Parlement en mai dernier, donc à peu près à la mi-mai, ça a été encore une fois très historique. Le roi Charles était là, donc j'étais dans la même pièce que lui. On a fait toute la procédure et compagnie pour ouvrir la chambre, donc c'est très impressionnant. J'ai eu un accueil exceptionnel. Écoute, à ma première question en chambre, j'ai eu une ovation des deux côtés de la chambre. Ça a été comme un peu spécial. Là. Je veux dire, je me lève pour poser une question, puis les libéraux m'applaudissent. Donc, ça a été très spécial, mais un accueil exceptionnel. Puis surtout, et là, je vais arriver vers le reste de tes questions, mais surtout un grand respect pour le bilinguisme puis le français. Puis moi, ça m'a étonné. Parce que quand tu arrives, je veux dire, la moitié du Parlement a changé cette année. Hein, t'sais, les députés des deux côtés de la Chambre, la moitié du Parlement a changé. Dans notre caucus, on a quand même énormément. Je pense que c'est le tiers des conservateurs qui étaient nouveaux. Fait que là, tu arrives, tu te mets à jaser avec du monde de partout au pays, Colombie-Britannique, Alberta, Ontario, Maritime et compagnie, tu te présentes.
Ouais.
Puis chaque fois, un, ma région est excessivement connue. Donc, Montmorency-Charlevoix, tout le monde sait c'est où. Et deux, ils me disent, parle-nous en français. On aime tellement ça, le français, mais nous, on n'a pas la chance de le parler régulièrement. Et moi, ça m'a frappé à quel point il y avait un grand respect pour le français. Moi, je suis parfaitement bilingue, là, je parle en anglais là, et j'ai aucun problème. Mais à chaque fois que je parle en anglais avec des députés d'ailleurs, ils me disent, ben, tabarnouche, tu es capable de nous parler en anglais quasiment mieux qu'un anglais. Mais quand tu te mets à parler en français, toi, tu es ouvert sur le monde. Puis ça, c'est une richesse qui, moi, m'a imprégné beaucoup dans ma mission au Parlement. De faire rayonner le français, de le protéger, mais de le promouvoir. Puis j'ai un discours là-dessus cette semaine. Ensuite de ça, tu me dis comment on se lève en chambre. Il y a une grande structure dans le Parlement, puis c'est pas un free-for-all, là. Tu te lèves pas comme tu veux, puis tu commences pas à. Tu sais, des fois, le monde, il pense que c'est comme on s'en va promener ou on s'ostine, puis là, tout le monde se lève. Le Parlement, c'est une séquence. En étant encore une fois français, les conservateurs sont excessivement respectueux de la nation québécoise et ils donnent 25 % des questions par jour aux Québécois. Ils veulent s'assurer que le Québec est bien représenté puis s'assurer qu'on parle français dans le Parlement. Donc ça, c'est un gros avantage parce que moi, dans le fond, on est 11 du Québec. Fait que quand tu donnes sur 31 questions, tu en donnes en 6, 7 par jour aux Français, ben, tu sais, mon tour revient plus souvent. Donc je me suis levé au-dessus de 50 fois en chambre présentement.
52 fois, je te surveille.
52 fois en chambre. Tu sais, ma prédécesseure, elle s'est levée 15 fois en 5 ans et demi, là. Moi, je me suis levé 52 fois en quelques mois. Donc, tu sais, c'est une grande, grande chance que j'ai de représenter les gens puis de me lever pour eux. Et là, comment ça marche quand tu te lèves en chambre? Et je vais te laisser parler éventuellement. comment ça marche quand tu te lèves en chambre? Tu as quatre manières de te lever. Le parti va te dire, OK, aujourd'hui, Gabriel, on veut que tu poses une question, exemple, sur le prix de la nourriture. Et tu vas être la 18e question de la journée. Parfait. Fait que là, tu prépares ta question. Tu regardes dans ta région c'est quoi la réalité, tu sais, de l'augmentation du coût de la vie, tout ça. Tu peux même, tu sais, cette semaine, j'ai appelé des entreprises à l'île d'Orléans, tu sais, polyculture plante. Qu'est-ce qui se passe chez vous? Pourquoi ça coûte plus cher? Puis là, le gars, il m'explique, Simon, ben, c'est à cause de ça, la taxe sur carbone sur le commercial, toutes les taxes sur l'emballage. L'emballage plastique, les normes qui nous sont. OK, parfait. C'est pour ça que tout coûte plus cher, la bureaucratie, parfait. Et là, je prépare ma question. Et là, tu as 30 secondes pour poser une question. Pas 37, pas, tu sais, comme, tu as 30 secondes parce que quand le président se lève, il te nomme. Là, tu te lèves, tu poses ta question. Mais si lui se lève, il coupe tes micros. Fait que si tu es comme, Monsieur le président, et là, tu arrives, tu poses pas de questions, mais là, tu fais un flat, là, tu as de l'air bizarre.
Fait que c'est un 8 à 10 lignes et il faut que ce soit très concis, là.
Faut que ce soit straight to the point, faut que tu sois, tu as une petite introduction pour comprendre c'est quoi la question que tu poses, elle s'en va vers où, mise en situation, puis après ça, tu challenges le gouvernement. C'est ça notre rôle,
OK.
l'opposition,
T'sais,
c'est de challenger le gouvernement.
tu as posé une question à Gabriel Hardy sur au président. Tu dis, bon, Monsieur le Président, le coût de la vie est hors de contrôle et les citoyens sont à bout de souffle. Et ça, quand j'ai entendu ça, j'étais très fier de toi parce que tu te positionnes sur le plancher des vaches, ce que
Oui.
vit tout le monde. Et tu dis,
Oui.
l'inflation alimentaire est aujourd'hui 70 % au-dessus de la cible de la Banque du Canada et les familles paient des centaines de dollars chaque année pour se nourrir et pour avoir accès à des aliments de base comme la viande, les fruits, les légumes et le café. Le prix du café a augmenté de 23 % dans les derniers mois. Cela menace du même coup une industrie qui soutient des centaines de milliers de travailleurs au pays. Est-ce que le premier ministre réalise que chaque dollar qu'il dépense sans compter alimente l'inflation et fait grimper le coût de la vie? Quand vous posez ces questions-là en chambre, M. Hardy, est-ce que le premier ministre doit absolument vous répondre?
Non, c'est ce qui est spécial. C'est
OK.
que souvent, Pierre Poilievre va faire les 6 premières questions de la journée et là, c'est
Ouais.
le premier ministre qui lui répond.
OK.
Le reste des questions, ça peut être le premier ministre. La plupart du temps, c'est pas lui qui répond. Ça va être le ministre Champagne, le ministre McKinnon, ça peut être le ministre Mélanie Joly. Ça dépend. Puis eux autres, on voit qu'ils ont leur stratégie, là, ils envoient les questions. OK, c'est un francophone, Mélanie, tu vas te lever, ou Stephen Guilbeault, tu vas te lever. McKinnon parle très bien en français aussi. Et là, tu as tout le côté partisan qui embarque. Tu sais, c'est la game de hockey, là. On est
Ouais.
dans la Chambre des communes, puis là, le monde, il s'attaque comme ça. Tu vois, tu sais, dans ma question que j'ai posée hier, ça, c'est celle que j'ai posée hier. Tu sais, quand tu dis comment tu planifies ta question, tu vois, là, tu viens de me la répéter, le mot supplémentaire n'a pas été mis. Puis moi, j'avais dit, les Québécois et les Canadiens payent des centaines de dollars supplémentaires parce que le coût de la vie augmente. C'est normal que tu payes de la bouffe dans la vie, mais c'est supplémentaire, tu vois. Fait qu'il y a des petits détails, des fois, comme ça, que je me réécoute, je suis comme, hey man, tu l'as échappé, il fallait que tu dises supplémentaire. Tu sais, tout est calculé pour vraiment que la 30 secondes soit crunch, puis tu arrives à faire sponge.
Ouais.
Mais tu n'es pas obligé d'être le premier ministre et tu n'as pas le droit de dire le nom d'une personne. Je ne pourrais pas dire, est-ce que M. Carney, tu n'as pas le droit de faire ça. C'est tu parles au président et tu as tout le temps, que, si tu cibles quelqu'un, c'est un collègue ou c'est est-ce que le ministre de, est-ce que le député de, tu n'as pas le droit de dire, il n'y a personne qui a le droit de m'appeler Gabriel Hardy dans la chambre, à part le président qui dirait, là, M. Hardy, vous avez dépassé les bornes, mettons.
OK.
Ça, c'est comme les procédures.
Donc, quand vous posez votre question en chambre, là, tu termines ta question en disant, est-ce que le premier ministre réalise que chaque dollar qu'il dépense sans compter alimente l'inflation et fait grimper le coût de la vie? Ça peut être n'importe quel député francophone, libéral qui te répond, ou peut-être les autres partis, là, tu sauras me l'expliquer. Est-ce qu'eux autres sont au courant de ta question à l'avance pour préparer
Non.
leur réponse?
Non, jamais. C'est pour ça qu'eux autres, ils vont faire une analyse de qu'est-ce que pourraient être les questions. Puis ils vont se dire, j'imagine, bon, ben, si c'est une question en français, toi, tu réponds. Si c'est une question sur tel sujet, toi, tu réponds. Puis des fois, je peux poser une question en français, puis ça va être une personne en anglais qui me répond. Le gros avantage, puis tu sais, on m'a dit en rentrant, la pire journée au gouvernement, c'est la pire journée au gouvernement est mieux que la meilleure journée dans l'opposition. Tu sais, c'est comme personne ne veut jamais être dans l'opposition. Puis je peux comprendre pourquoi. Là, tu veux être en poste de décision, tu ne veux pas juste critiquer. Mais pour un député comme moi qui commence, c'est excessivement formateur d'être à l'opposition. Parce que moi, quand je pose des questions, là, c'est à peu près toujours les mêmes qui vont se lever. Tu sais, on a 4-5 ministres qui vont se lever pour répondre aux questions. Le reste du caucus, là, c'est des backbenchers. Ils se lèvent jamais, ne répondent pas aux questions, sont pas actifs en chambre. Fait qu'en gros, eux autres, ben, il faut qu'ils rencontrent du monde et qu'ils soient sur les comités. Alors que moi, t'sais, avec 52 fois que je me lève, ben, ça me donne beaucoup une belle historique, ça me donne beaucoup d'apprentissage. Puis ça fait aussi en sorte que je peux faire passer mon message plus souvent, je peux mieux représenter les gens présentement, en tout cas dans ce que je fais. Alors, c'est pour moi un gros, puis que le parti me donne la place de même, c'est un gros avantage que j'ai présentement de le faire comme ça. Donc ça, c'est une des manières de se lever la fameuse question.
Puis est-ce que vous rencontrez à chaque jour Pierre Poilievre?
Oui, on se croise très
Oui.
régulièrement.
Mais as-tu des briefings avec le boss à chaque matin? Comment ça fonctionne?
À chaque semaine, on va avoir un
Chaque
caucus
semaine.
national. Puis à chaque semaine, on a un caucus du Québec. Fait que c'est excessivement démocratique. Puis ça, encore une fois, les gens, des fois, ne le savent pas. Mais c'est excessivement démocratique, le Parti conservateur. Tu sais, ça a été dépeint comme si c'était Pierre Poilievre qui manageait tout, puis c'était juste ses idées. Mais dans la structure du Parti conservateur, tout doit être voté par l'ensemble des membres. Et il y a des discussions toujours, toujours, toujours. Donc, à chaque semaine, on va avoir un caucus québécois. On parle des enjeux du Québec. On parle de la position parce que c'est un pays, là. Ça fait qu'à un moment donné, il y a des affaires qui se passent au Québec qui peut-être c'est une réalité qui n'est pas la même dans les autres provinces. Fait que là, nous autres, on se rassemble ensemble. On parle de nos enjeux du Québec. On parle de qu'est-ce qui nous a été dit par nos citoyens, par les entreprises et tout ça. Après ça, on s'en va au caucus national où est-ce que tous les députés sont là. Et là, on va parler des enjeux nationaux. On va ramener les enjeux des provinces. Après ça, on va dire, je ne sais pas moi, est-ce que tout le monde est d'accord sur telle politique vers laquelle on s'en va? Si on n'est pas d'accord, on attend avant de la sortir parce que là, on va prendre le temps d'en discuter ensemble. Mais c'est pas Pierre qui arrive au début puis il dit, bon, ben gang, ça, c'est notre position. À cette heure, c'est ça qui est ça. Puis là, si vous sortez, vous dites ça. C'est pas comme ça que ça marche du tout, du tout, du tout. C'est excessivement démocratique à l'intérieur du Parti conservateur. Puis je pense que c'est une grande force parce qu'on est capable de bouger en équipe. Puis on est capable de se parler, de discuter ensemble, puis de justement faire sortir les problèmes en équipe avant que ça sorte dans le public. Et c'est comme ça qu'on travaille là, dans le parti. Donc à chaque semaine, on se rencontre tout le monde ensemble.
OK. Puis comment ça fonctionne? Là, tu vas dire que je suis ma mère, mais en même temps, Gabriel Hardy, tu me connais un peu, là. C'est ma job d'être ma mère.
Oui.
Là, ta résidence est dans le secteur Montmorency-Charlevoix, c'est bien ça? Ouais. OK. Tu dois te déplacer constamment à Ottawa, 4 à 5 jours par semaine, puis par la suite, tu redescends dans ta circonscription, puis de temps en temps, tu es dans ta circonscription pour représenter, bien entendu, et rencontrer tes électeurs et les gens que tu représentes. Comment ça fonctionne? Est-ce que vous devez absolument vous payer un appartement là-bas? Comment ça fonctionne pour les députés?
Oui, c'est ça. Moi, j'ai un appartement à Gatineau, là, juste l'autre côté. Dans le fond, là, aujourd'hui, je suis côté d'Ottawa, dans le Wellington, mais qui est en face du Parlement. Mais je suis à quelques kilomètres plus loin. J'ai un appartement là. Fait que moi, je pars le lundi matin vers 4h30, 5h du matin pour m'en venir ici. Parce que je veux rester avec la famille. Puis je veux avoir mes meetings les fins de semaine, mais aussi passer du temps avec la famille. Fait que je pars à 5h le matin, à peu près le lundi matin. J'arrive ici. Je travaille toute la semaine, évidemment. Puis après ça, le vendredi, la dernière question au Parlement, puis moi, on m'a donné les questions de la santé, puis du sport, puis de l'activité physique. J'en ai une par semaine. Donc, je pose la dernière question le vendredi. Le Parlement, la période de questions finit à midi. Et là, je reprends l'auto, puis je redescends. Fait que je vais rentrer entre 5 puis 6h30, 7h dans le coin de Montmorency-Charlevoix. Puis là, bien, la fin de semaine, je me promène sur le territoire, puis je m'en vais rencontrer les organismes. Puis à travers ça, je suis avec la famille, évidemment. Puis comment ça marche, c'est qu'on a 3 semaines à Ottawa, une semaine que le Parlement est fermé. Fait que là, dans le fond, les députés, ils restent chez eux dans les circonscriptions. Et là, ça roule comme ça jusqu'à Noël. Et après Noël, c'est comme 2 semaines, une semaine, 2 semaines, une semaine. Puis après ça, bien, l'été, quand le Parlement est fermé, on est 100% du temps en circonscription. Okay. Fait que on alterne vraiment pour être sûr qu'on reste connecté à notre monde. Là. On n'est pas élu à Ottawa, là. On est élu chez nous. C'est là qu'il faut travailler. C'est nous, on représente les gens de notre territoire.
Puis est-ce que c'est payé par Ottawa, ces logements temporaires-là, pendant 4 ans, ou vous devez prendre ça à même votre salaire?
Non, ça fait partie des allocations, dans le fond, d'un bureau. Voilà. C'est comme je te dirais, moi, j'ai la chance de le faire en auto. Mais tu sais, le député, lui, qui part de Colombie-Britannique ou de Victoria, bien, lui, il prend l'avion. Fait que tu sais, lui, le vendredi, il n'est pas ici. Lui, il part le jeudi soir parce que sinon, il arriverait le samedi midi puis il repartirait le dimanche midi, ça ne marcherait pas. Fait que tu sais, les vols d'avion, ça fait partie du budget qu'un bureau que le Parlement va payer pour que les députés puissent se déplacer, loger. Si tu es à l'intérieur d'un certain nombre de kilomètres, tu n'as pas accès à ça. Mais à partir du moment où est-ce que tu es à l'extérieur d'un certain nombre de kilomètres, là, tu vas avoir un appartement que tu choisis. Là, tu sais, il y a une allocation, puis tu ne peux pas commencer à te prendre un penthouse à 2 millions. Là. Mais tu sais, il y a une allocation pour ça, il y a une allocation pour tes déplacements, pour t'assurer finalement que c'est couvert. Là, ouais.
OK, c'est parfait. On va parler du projet de Luc, C2, qui a fait extrêmement jaser au Québec dans les dernières semaines. Projet de C9 aussi. Juste avant, on t'a donné une tâche. On t'a dit, on aimerait que tu participes, Gabriel Hardy, au comité permanent de l'accès à l'information, de la protection des renseignements personnels et de l'éthique. De un, ouais. C'est quoi ce comité-là? Puis comment on t'a attitré cette présence à ce comité-là?
Donc, quand tu arrives au Parlement, tu vas appliquer sur certains comités. Donc, ils vont dire, bon, mais les députés, nous autres, on aimerait ça, tu sais, d'avoir le plus possible sur chacun des comités, tu sais, des comités permanents. Le but, encore une fois, c'est de faire avancer les lois, de faire avancer la législation canadienne, de vérifier aussi, de s'assurer que tout va bien. Il y a des comités qui sont, le président est un conservateur, il y a des comités comme la plupart, là, je dirais que 90% des comités, le président est un libéral parce que c'est le parti au pouvoir qui va présider. Puis après ça, ben là, t'as comme une égalité des deux côtés. Fait que tu vas avoir des libéraux, tu vas avoir des conservateurs, tu vas avoir le bloc. Là, c'est en représentation selon le nombre de députés élus en chambre. Fait que tu sais, exemple, nous autres, on est 3 conservateurs, 3 libéraux, 1 bloquiste, puis de l'autre bord, puis le président, c'est un conservateur. Fait que là, s'il y a égalité, le président a le droit de vote. Fait que c'est comme ça que ça fonctionne. Dans la mesure où ils sont 4, fait qu'on est 3 conservateurs, 1 bloquiste, 4 libéraux et le président. C'est toujours comme ça qu'un comité est formé. Donc là, ils vont nous les attitrer. Là, moi, ils m'ont dit, Gab, tu vas être sur le comité de l'éthique. Le comité de l'éthique et de l'accès à l'information, je crois que c'est un des comités, je ne dirais pas les plus importants, parce que chaque comité est très, très important pour s'assurer que on protège les intérêts des Canadiens et qu'on avance bien. Mais celui-là est certainement sur le fait qu'on veut s'assurer que le gouvernement est tenu imputable des décisions qu'il prend. Fait que là, un comité, c'est quoi qu'il fait? Là, c'est qu'il étudie chacune des décisions ou la tendance, c'est comme dans le cas présent, les conflits d'intérêts. Donc là, c'est l'éthique, hein, le comité d'éthique et d'accès à l'information. Mais c'est quoi qui étudie? Les conflits d'intérêts, Est-ce que l'accès à l'information de la population a été respecté? Est-ce que quand la commissaire d'accès à l'information dit à un ministère, je veux les informations pour comprendre, tu as passé le contrat à qui, sous quelle manière et pourquoi, est-ce que le ministère répond ou il attend ou il joue un petit jeu? Ou... Fait que nous autres, notre job, là, c'est de s'assurer que les décisions qui sont prises par les libéraux, donc par le gouvernement, respectent les Canadiens, les Québécois, respectent la population. Ça, c'est notre job. Fait que dans le fond, ce que je fais, puis là, c'est, je te dis ça comme si j'étais un grand connaisseur, mais je commence à comprendre toute la patente, là, c'est que là, on va faire venir des témoins, on va faire venir des experts, puis on va leur poser des questions. Puis le but, où on a un dossier qui arrive, puis on dit, oups, qu'est-ce qui s'est passé là? Et là, on va enquêter. Et c'est comme ça qu'on va aller chercher des problèmes comme on a vu, exemple, avec le fiasco là, de Arrive-Can. Que trois gars dans leur sous-sol ont reçu des centaines de millions de dollars pour une application qui était so-so. Tu sais, c'est de même qu'on vient à le découvrir. Et là, après ça, ça rentre au comité, puis on essaie de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ils ont eu ces contrats-là, puis blabla. On est comme un peu les chiens de garde, si on veut, des dépenses publiques, puis on veut s'assurer que la population est au courant des décisions qui se prennent.
Fait que j'imagine que dans votre cours, vous avez eu le fameux projet C2, le fameux projet C9, c'est ça?
Bien, on n'est pas encore rendu à l'analyser au niveau éthique parce qu'avant qu'un projet se rende là, il doit passer par toujours trois lectures dans le Parlement. Donc, un projet est soumis. Là, je te dis ça. Un projet est soumis, il s'en va en comité, il est analysé, il est resoumis, il retourne en comité pour être peaufiné, puis après ça, il est voté final.
OK.
Mais moi, dans l'éthique, là, présentement, dans ce que tu me parles, il n'y a pas eu de problème éthique qui a été là. Tu sais, là, on va l'envoyer peut-être au comité de la justice ou au comité de XYZ. Là, moi, je ne suis pas encore dans le éthique parce qu'on n'a pas de problème éthique. Mais oui, les comités, c'est ça leur job, c'est de suranalyser. Et là, je te dis ça, puis après ça, ça doit aller aussi au Sénat. Parce que le Sénat aussi doit accepter les projets pour lui l'amender un peu. Fait qu'avant qu'une loi sorte, là, elle est scrutée là, de manière intense. T'sais, tu peux pas flipper un pays, genre deux secondes de même, en disant « Hey, c'est sûr, on a une bonne idée, nous autres, on va faire ça. » Finalement, ça a des ramifications, des répercussions épouvantables. T'sais, c'est très, très, très analysé. Okay. Fait que oui, C2 et C9 sont dans un comité présentement à l'analyse.
Parce que C2 actuellement, bon, il y a des experts qui se sont penchés là-dessus. Il y en a certains qui ont dit ben la C2, ça vise carrément à restreindre les droits qui sont reconnus internationalement. C'est connu sous le nom de la loi visant une sécurité rigoureuse à la frontière. Et ça a été critiqué par de nombreuses organisations. Ces dernières estiment que le projet de loi menace les libertés et les droits des réfugiés et des migrants, en plus de la vie privée de tous les Canadiens. Ça semble extrêmement sérieux. Donc, nécessairement, ça va passer dans votre cour.
Bien, c'est sûr et certain. Puis, tu sais, nous, on va le critiquer. Ce qui se passe, encore une fois, puis je trouve ça bien qu'on le souligne comme ça. Tu sais, en politique, des fois, tu vas avoir les gros headlines. Les conservateurs ont voté contre défendre les intérêts des Canadiens. Puis là, après ça, quand tu vas dans le pourquoi du comment, là tu commences à comprendre que, mais dans le projet de loi, là, le projet de loi n'est pas une ligne. Là. Le projet de loi est 26 pages. Et là, tu vas voir dans les petites affaires, tu sais, je te dis 26 pages, ça peut être 28, 18, 32, là, on s'en balance. Le point, c'est qu'un projet de loi, c'est pas straightforward. Là. Il y a plein de ramifications. Et le diable est dans les détails. Fait que nous, quand le projet de loi il est présenté, là, ben, on va l'analyser, on va dire, oups, ouais, cette ligne-là, on ne peut pas accepter ça. Là. Même si l'intention est bonne, tu sais, exemple C9, tu me parles aussi de C9, on analyse C9, est-ce que tout le monde est contre les crimes haineux? Je pense que la réponse est oui, là. Il n'y a personne qui est contre ça. Par contre, quand tu vas dans les détails, là, tu te rends compte que ben ça ne changera rien parce que la loi actuelle le défend déjà, puis il y a déjà des sanctions pour tel crime. Ça aussi. Là, tu te mets dans les détails, tu te dis, ouais, mais attends, là, à part enlever le procureur général puis donner plus de force au gouvernement, ça marche pas, on peut pas voter pour ça, même si la prémisse est bonne, les détails le sont pas. Et là, je te donne C2, C9 et d'autres projets, c'est comme ça des fois qu'il va y avoir les headlines qui disent les conservateurs votent contre les banques alimentaires.
Ouais.
Puis finalement, tu t'en vas dans les détails, puis t'es comme, OK, ouais, mais c'est un chèque en blanc qui peut dépenser ça comme il voulait.
Fait qu'il y a de la stratégie politique là-dedans, parce que C2, c'est un projet mammouth, là. T'sais, c'est immense comme projet. C'est sûr et certain qu'il y a des choses avec lesquelles vous ne serez pas en accord. Puis ce genre de choses-là avec lesquelles vous ne serez pas en accord, ben eux peuvent jouer avec ça en disant, ah, C2, c'est intéressant pour tous les Canadiens. Par contre, les conservateurs ne sont pas en accord avec
Tu pourrais avoir le côté médiatique qui nous ramasse, puis que là, ben, les médias qui veulent, exemple, faire du headlines puis juste la grosse nouvelle forte, ben, ils n'iront pas dans les détails, puis ils n'iront même pas lire le projet de loi. Ceci étant dit, où est-ce que la partisanerie doit être mise de côté dans des intentions de développer le Canada Exemple, je te donne dans ces deux. À un moment donné, comment le gouvernement, parce que le gouvernement, à un moment donné, veut faire passer des lois, là, c'est ça, il est là pour ça, c'est ça sa job de faire avancer le pays. Bien là, tu peux avoir une discussion bipartisane, qui est à dire, bon, là, les libéraux vont venir s'asseoir avec le chief of staff libéral, là, comme les big boss vont venir s'asseoir avec les big boss conservateurs, puis ils vont dire, qu'est-ce qui ne marche pas dans notre projet que vous voulez qu'on amende là, pour être capable d'avancer? Et là, ben, on va dire, bien ça, on n'est pas d'accord, si on n'est pas d'accord, si on n'est pas d'accord, OK, parfait, mais tu sais, si l'intention, c'est ça, si on pourrait le supporter, et là, tu vas avoir une discussion qui va se faire pour que le pays avance. Donc ça, c'est le genre de choses qui peut arriver aussi. Donc, tu sais, avant d'arriver en disant on est contre, il faut travailler, là. Ou des fois, on va dire qu'on est contre pour arriver à cette discussion-là, dire, regarde, moi, si tu continues de même, on va voter contre, il passera jamais ton projet. Mais si tu veux qu'on s'assoie puis qu'on le fasse dans l'intérêt des Canadiens, là, on va le faire. Donc, tu sais, c'est ce jeu politique-là qui est. C'est pas une carte en blanc, là, aux libéraux, dire faites ce que vous voulez, là. Puis nous, notre job, c'est de s'assurer que les Canadiens sont défendus et c'est dans l'échange et dans la discussion qu'on va le faire.
Puis, projet de loi C9, bon, c'est quoi exactement? Puis, est-ce qu'il y a un risque de criminaliser certaines formes d'expression qui sont déjà protégées par la Charte des droits et libertés?
C9, c'est un sujet qui est très glissant. C'est-à-dire que, comme je te disais, tout le monde est d'accord avec le fait qu'un crime haineux ne devrait pas arriver. Puis c'est pour ça que si j'ai fait un speech de 10 minutes en chambre là-dessus, ce qui est une autre manière de parler en chambre, c'est les fameux débats de députés là, que tu vas parler pendant 10 minutes d'un sujet. Quand tu te mets à analyser en profondeur le projet de loi, tu te rends compte qu'il existe déjà plein de lois qui contre les crimes haineux, contre le crime en général. Puis nous, parce que moi, ma position est très claire là-dessus, tu sais, nos policiers ont besoin de plus de support, ont besoin de plus d'appui, ils ont besoin de moins de ouais, là, attends, là, il est-tu en train de faire ça? Peux-tu défendre l'ordre public, s'il te plaît? J'en peux intervenir quand ça se met à aller dans le champ, là. C'est pas normal, à un moment donné, que tout le monde se sente mal à l'aise pour des minorités. C'est pas normal, à un moment donné, que les gens qui sont frustrés de la vie aient des droits, mais que la population en général n'aille pas, là. T'sais, on peut-tu arrêter de s'enfarger des fleurs du tapis puis faire ce que nos lois sont déjà montées pour faire, c'est-à-dire défendre les citoyens, défendre l'ordre public, puis s'assurer que nos policiers sont soutenus, que nos douaniers sont soutenus, puis qu'il y a aussi un safeguard, qu'il y a aussi, tu sais, on a un procureur général en place qui est là pour faire son travail. Tu peux pas enlever toutes ces choses-là. Donc, oui, on est pour le fait que les crimes haineux ne devraient pas arriver, mais non, on n'est pas pour complexifier les lois pour rendre ça tellement difficile que finalement, on comprend même plus on est rendu où, puis on donne plein d'échappatoires possibles ou pas, puis on enlève le procureur général. Donc, on est dans l'analyse présentement de C9, puis encore une fois, comme je te disais, il va avoir sûrement des recommandations pour dire, ben ça, on enlève ça de ton projet. Ça, on n'est pas d'accord avec ça. Ça, c'est déjà dans la loi, pourquoi tu le complexifies? Et juste avoir moins de bureaucratie, plus de clarté, puis plus de support pour nos policiers, policières, nos douaniers et compagnie.
Mais ça semble extrêmement complexe, là. Tu sais, je t'écoute parler, puis bon, heureusement, le système là, semble bien fait, puis rien n'est laissé au hasard, tout est scruté à la lettre. Mais oui, à un moment donné, il faut faire quelque chose, parce qu'à un moment donné, on ne se sentira plus chez nous. Puis il y a des choses qui. Tu sais, puis je veux pas faire de politique nécessairement avec ça, mais j'ai pas le choix de le faire. T'sais. Un homme qui.
En politique, c'est normal qu'on fasse de la politique.
Ouais, je sais, mais c'est plus de la politique provinciale, quoique ça peut toucher le fédéral aussi. Mais on a un Adil Sharkawi qui, durant une prière, s'adressait à des gens sur la Sainte-Catherine. Il y avait des centaines et des centaines de personnes. Il a clairement dit, avec des mots qui étaient assez simples, quand on a réussi la traduction, à faire la traduction, qui appelait les gens à la destruction des Juifs, au meurtre des Juifs. Je trouvais ça hallucinant qu'on puisse accepter ça à Montréal. Puis il y a pas eu d'arrestation parce qu'on disait ben, c'est le free speech au Canada. Mais je veux dire, quand on a un discours comme ça, un discours haineux, je sais pas moi, si quelqu'un avait eu le même discours pour quelqu'un pour des gens qui étaient noirs, exemple, pas sûr que ça aurait été perçu de la même façon, hein.
Exactement. Puis c'est pour ça que je te dis, on a-tu besoin de s'enfarger dans les fleurs du tapis? La personne est en train d'inviter les gens à casser l'ordre public, est en train d'inviter au meurtre. On a-tu vraiment besoin de 56 000 virgules, puis de lois, puis d'analyse, puis le policier se dit, ouais, là, dans quel contexte que je suis? Est-ce que la personne devant moi est pacifiste, agressif? Pas de bon sens, tu sais, Manis, je dis, ça n'a pas de bon sens, tu interviens, puis tu es un policier, ta job, c'est d'intervenir contre l'ordre public pour protéger l'ordre public. Si cette personne-là invite les gens à pas respecter l'ordre public, faut non, cache-toi pas, là. Ce que tu dis, c'est tuer du monde. Je te remercie beaucoup de ton discours, mais il est inacceptable. On peut-tu clarifier ça, genre, puis permettre à nos policiers d'avancer dans leur métier, puis de protéger nos lois qui sont déjà en place? Et moi, c'est ça que je trouve dans les dernières années. Je veux dire, les libéraux ont bureaucratisé, ont mis des points, des virgules, des phrases de plus pour essayer de clarifier des choses qui créent des problèmes. Puis là, il y a plus de problèmes, puis leur réponse est tout le temps de bureaucratiser plus avec plus de. Non, on peut-tu revenir à la base? On a des lois qui sont chez nous, qui existent, qui sont là pour protéger les citoyens et les citoyennes, pour protéger la grande majorité des gens. Y a-tu moyen là, qu'on fasse respecter les droits des victimes? On peut-tu protéger que les gens se promènent dans les rues puis soient en paix? On a, tu sais, je l'ai dit dans le Parlement, puis je l'ai appris encore plus dans chacune. Tu sais, là, je fais mon parallèle avec cet été. Quand j'ai couru chacune des villes, là, j'ai été à la rencontre des citoyens et tout ça, mais j'ai aussi appris beaucoup l'histoire. Puis s'il y a une chose que le Québec et le Canada ont fait, c'est de travailler ensemble, en collaboration, dans l'écoute puis dans la communauté. C'est de même qu'on l'a fait, notre pays. C'est pas en séparation, c'est pas en agressivité, c'est pas en invitant le monde à se tuer. Puis on a été capable d'avancer en équipe de même. Puis aujourd'hui, on est gêné d'aller dire à une personne, « Hey, buddy, t'es en train de dire au monde de se tuer, là. Hey, bonne la blague, là. C'est inacceptable dans notre pays de faire ça. Tu t'en vas en prison. Ah ben là, moi j'ai des droits. » Oui, puis il y a une bonne partie de la population aussi qui ont des droits. On peut-tu les défendre, les autres
Mais
aussi?
c'est à se demander si les criminels n'ont pas plus de droits que les citoyens en général. T'sais, je lisais ce
Là, c'est le temps
matin,
que ça arrête, hein?
c'est le mot opinion, je cherchais, je voulais pas faire d'opinion avec toi, mais regarde, on n'a pas le choix d'en faire une fois de temps en temps. T'sais, il y a eu un féminicide à Saint-Jérôme, là. Le suspect a été arrêté 16 fois pour non-respect de ses conditions. Le gars traîne un lourd passé criminel avec plusieurs crimes en matière de violence conjugale. 16 fois, Gabriel Hardy, cet homme-là a brisé les conditions qu'un juge lui avait données. Et finalement, bien, il a fini par la tuer, la madame. Et là, on fait face à un féminicide. C'est encore une fois une faille du système. Puis je me souviens de l'ancien premier ministre du Canada, Stephen Harper, qui voulait durcir les sentences pour ce type de crime-là, ce type de criminel-là. Puis les libéraux étaient arrivés par la suite en disant « Non, nous, on croit en la réinsertion sociale. » C'est à se demander des fois si les criminels n'ont pas plus de droits que les gens qui vivent convenablement puis qui sont honnêtes.
C'est terrible. Tu sais, en anglais, ils disent « jail, not bail », puis ça fait encore partie. C'est une histoire de plus qui s'ajoute. Depuis l'ouverture du Parlement, j'en entends parler de manière régulière à tous les jours. Nos lois fédéral, puis comme tu le dis, il y a tellement une laxité, puis tellement je veux dire, des arcs-en-ciel, puis des lutins, là, tout le monde souhaite que ça se passe, puis que tout le monde soit heureux, mais la réalité, c'est que ces gens-là, là, qui ne veulent pas changer, qui sont des criminels de carrière comme ça, devraient être derrière les barreaux. Tu sais, à un moment donné, ça suffit, là. Puis c'est comme tu dis, on doit protéger le droit des victimes aussi, là. On doit protéger la population. C'est pas normal. On est au Canada ici, un pays ultra pacifiste, un pays qui est respecté à travers le monde pour la qualité de vie qu'on a chez nous, pour le sentiment de sécurité qu'on a dans nos rues. C'est pas normal qu'on normalise le crime. C'est pas normal de prendre une personne puis de dire, écoute, ça fait 16 fois, mais je pense que la 17e pour toi, ça va être la bonne. Tu sais, je pense que on attend d'être offusqué qu'il ait tué une personne. Tu sais, moi, vous le savez, là, la prévention, en santé, notamment santé physique, santé mentale, c'est mon cheval de bataille depuis des années, mais la prévention, c'est du quoi? Ça existe dans tout. Quand un criminel te montre des signes qu'il veut aller plus loin, puis à chaque fois, puis il respecte pas, puis il tire la ligne, puis tu es tout le temps là en train de lui donner une petite tape sur les doigts, puis dire, hey, mon grand, ça serait le fun que tu changes. Ben, à un moment donné, ça suffit. Puis, hey, où la ligne, tu sais? Si les gens savent qu'en faisant un crime, il y a une conséquence grave qui vient, bien, ils vont peut-être y réfléchir deux fois avant de le faire. Mais aujourd'hui, quand tu leur donnes une tape dans le dos à chaque fois en disant, hey, là, celle-là, hey, il faudrait que tu arrêtes de faire ça. Puis ça prend 17 fois avant qu'ils se rendent jusqu'au bout. Puis là, après ça, on est étonné. Puis ils vont se lever, les libéraux, dans le Parlement pour dire qu'on doit le dénoncer. Mais j'espère que tu dois le dénoncer, mais tu fais partie du problème, là. Tu as fermé tes yeux pendant les 15 dernières années ou les 11 dernières années à encourager le crime, puis en relâchant le monde, puis en rendant tes lois plus laxes, ça n'a aucun bon sens de faire ça. Puis c'est ça que notre message y est. C'est de dire, là, on peut-tu ramener l'ordre public? On peut-tu ramener nos lois où est-ce qu'ils sont déjà faites? On peut-tu soutenir nos policiers? Puis pas leur dire, fais juste t'assurer de la paix. Non, non, il y a un thème en latin, puis il est très connu, mais tu sais, Qui prépare la guerre à la paix ou qui veut la paix prépare la guerre, là. Tu sais, à un moment donné, là, tu dois être structuré, puis tu dois être solide, puis dire non, c'est inacceptable.
T'sais, je comprends, je pense que la réinsertion sociale doit avoir sa place dans le système de justice, mais il faut que que justice soit rendue quand il y a des victimes. Puis il faut que les victimes aient l'impression que la sentence qu'eux ont eue de la part de leur bourreau, ben que ce bourreau-là puisse avoir la même sentence, puis qu'ils se disent « OK, c'est la balance, c'est la justice. Justice a été rendue. » Dans les dernières années, moi, j'ai l'impression que la confiance du public envers la justice s'est amoindrie pas mal, et de voir qu'en cours, ce gars-là, puis je sais exactement ce qu'ils vont dire, là. Écoutez, ce monsieur-là a eu une enfance très difficile, il y a eu des problèmes d'alcool aussi, il y a eu des problèmes de drogue, vous devriez considérer ça comme des facteurs atténuants, puis c'est pour ça qu'il était violent, et ça va être pris en cause. Il y aura négociation entre la couronne puis la défense pour qu'on ait le moins possible à lui donner d'années derrière les barreaux, puis qu'il puisse revoir le jour aujourd'hui. On parle d'un homme de 45 ans, là, donc on va lui donner quoi? Un 20 ans de prison, un 25 ans de prison, un 15 ans de prison, il va revoir le jour. Et comme il a brisé ses conditions 16 fois, il y a à peu près une trentaine de dossiers à son actif, là, de crimes qui sont quand même assez majeurs. C'est clair et net que si on le laisse sortir à 60 ou 65 ans, il va recommencer son manège. T'sais. Ce genre d'homme-là qui est incapable de comprendre les lois puis comment agir avec les femmes et ses pères devrait rester jusqu'à la fin de ses jours en prison. Ça, c'est mon opinion. Mais les maudits facteurs atténuants, là, comme quoi « Ah, il faut les réinsérer socialement parce qu'il n'est pas né à bonne place. » Il y a plein de gens qui sont pas nés à bonne place, qui n'ont jamais tué personne.
Ah, puis tu as des énormes histoires de succès de gens qui sont pas nés à bonne place, puis dans des conditions favorables, puis qui sont pas nés avec une cuillère argentée dans la bouche, puis qui sont des très, très honnêtes citoyens et même qui deviennent des exemples à suivre. Tu sais, je pense que les deux existent. Puis de dire que, comme tu le dis si bien, que tu retires le droit de la victime pour donner le droit à un criminel parce qu'il faut donc le comprendre. Je pense qu'on est rendu dans une société qui est justement tout le temps en train de dire « oui, mais il faut le comprendre ». Hier, au comité d'éthique, tu sais, je demandais cette question-là. On disait, le premier ministre, exemple, ne divulgue pas tous ses avoirs et tout ça parce que, bon, il a le droit là, d'avoir des choses à lui puis que le monde ne le sache pas. Et oui, je suis d'accord que le premier ministre a le droit d'avoir des choses à lui puis que le monde ne le sache pas, mais la population a le droit d'avoir confiance dans ses institutions puis de comprendre que la personne qui est en charge est là pour les bonnes raisons. La population a le droit de savoir que les personnes à qui il a parlé à New York puis à Londres dans les dernières semaines, qui étaient des investisseurs de ses portefeuilles, c'était qui ces gens-là? On a le droit de le savoir pour se faire une opinion sur qu'est-ce qui se passe avec notre pays, mais on est tout le temps en train de ramener, puis là je change de sujet, mais on est tout le temps en train de ramener sur le droit de l'individu. Mais la société, elle, a-tu des droits? On a-tu le droit de vivre ensemble? On a-tu le droit, genre, d'être dans des rues sécuritaires? On a-tu le droit d'avoir des douanes qui sont solides? On a-tu le droit de savoir qu'il n'y a pas d'armes illégales qui rentrent chez nous? On a-tu le droit d'avoir un crime qui est en descente au lieu d'être en montée? Tu sais, on a-tu le droit de se sentir en paix dans un pays qui est très, très pacifique puis qui a une bonne fondation, justement, de pas de guerre à l'interne? Puis on peut-tu, ça, avoir le droit en tant que société de l'avoir? Puis je trouve que, comme tu dis, on arrive tout le temps dans « Ah, oh, mais la personne qui a commis un crime, elle a des droits, mais elle avait juste à y penser avant de commettre son crime. » Puis je suis pas contre le fait de réinsertion puis qu'on travaille avec elle et tout ça, c'est correct. Mais quand t'as tué une personne, là, puis que ça fait 16 fois qu'on te tape ses doigts, là, je comprends pas comment la 17, la 18, la 19e fois, puis quand tu vas sortir « Ah oh, là, cette fois-là, t'as compris. » Fallait que tu tues quelqu'un pour comprendre. Tabarnouche, ça va pas, là.
Exact. Je regarde tes discours en chambre. Beaucoup touchent l'économie. Ça va être probablement ça pour les prochains mois, puis peut-être les prochaines années du mandat libéral à la tête du Canada. Est-ce que c'est en raison justement de la relation assez houleuse avec Donald Trump? C'est toujours pas réglé. On nous disait que cet homme-là qu'on a mis à la tête du gouvernement du Canada, c'était la personne idéale pour négocier contre Donald Trump. Jusqu'à maintenant, on n'a pas gagné grand bataille contre Donald Trump, là?
On n'a rien gagné, en fait. Il n'y a rien de réglé. Donc, certainement qu'il y a deux éléments. Le premier étant que, oui, l'économie est au cœur du pays. On a l'économie qui grossit le moins vite dans le G7. En fait, les investissements sortent du pays et tout ça. Donc, on doit l'adresser. Pour moi, je représente les gens de Montmorency-Charlevoix. Donc, moi, c'est aussi important que notre économie régionale augmente, que nos régions fleurissent et qu'il y ait accès à plus. Puis tu sais, c'est pour ça que tu vas me voir parler du coût de la vie, de la bureaucratie qui est sur nos agriculteurs, puis sur nos fermiers et fermières. Tu vas me voir parler du coût de la nourriture, évidemment, qui explose. Tu vas me voir parler du fait qu'il est plus que temps qu'on investisse pour faire remonter l'économie, puis nos entreprises, puis nos PME, qu'on les supporte et tout ça. Parce que c'est comme ça qu'un pays va fleurir, puis qu'une province va fleurir, puis que Montmorency-Charlevoix va fleurir. C'est en remettant le courant d'entrepreneuriat, puis le courant économique dans nos régions, que ça passe par le tourisme. On le sait, le Charlevoix-Montmorency, c'est très touristique, mais tout ce qui est plus Montmorency est plus collé sur Québec. Donc, beaucoup d'entreprises, beaucoup de justement, soit des grosses entreprises qui pourraient participer à l'effort national, des plus petites entreprises qui ont besoin de support. Quand tu es plus dans Charlevoix, on est plus au niveau de l'agriculture ou du tourisme sportif, le tourisme, tu sais, pour toute la magnifique vue qu'on a. Il faut que nos régions se relèvent économiquement. Puis tu peux pas le faire sans en parler, sans le supporter, puis sans trouver des avenues. Moi, je veux faire partie de la solution. Fait que c'est sûr que tu vas m'entendre beaucoup, beaucoup parler de ça et représenter les gens. Et moi, j'ai toujours dit, c'est de Montmorency-Charlevoix vers Ottawa, pas l'inverse. C'est important que les gens comprennent, puis tu l'as dit au début, moi, là, je suis excessivement choyé d'être ici et de représenter une des plus belles régions au Canada, mais mon mandat, c'est d'écouter les gens. Je suis pas là pour leur dire ce que vous devez comprendre. Là. Non, non, non. Parlez-moi de vos intérêts, parlez-moi de vos besoins. Puis mon travail, c'est de l'amener au Parlement, puis de trouver le moyen avec le parti de pousser sur le gouvernement en place pour qu'il prenne des décisions qui vont avoir un impact positif dans la région. Fait que c'est pour ça que tu vas m'entendre parler d'économie puis de coût de la vie.
On a le plaisir de jaser avec le député Gabriel Hardy. C'est le député de la circonscription Montmorency-Charlevoix pour le Parti conservateur du Québec. Il est actuellement à Ottawa. Je viens de voir où est situé ton siège dans la chambre. T'es adossé au mur, de ce que je comprends. Là, c'est...
oui. En fait, comment ça a marché? Puis ça, c'est une des questions que tu m'as posées tantôt.
À grandeur que t'as, ils t'ont-tu donné un siège section VIP?
Ben, écoute, j'ai le meilleur siège. Au début, le monde me dit, un backbencher, whatever. À 52 fois que je me lève depuis le début, je ne suis pas un backbencher, je vous le garantis. Mais par ordre alphabétique, en premier, ils mettent par ordre alphabétique. Puis après ça, ils vont mettre en bas, mettons, tous les shadow ministers, donc les ministres du cabinet fantôme. Donc, les libéraux ont, mettons, le ministre de l'économie. Bien, il y a un ministre fantôme qui est de l'autre bord, qui va faire la critique, puis qui va analyser, puis qui va être la personne à qui ce ministre-là va parler. Fait qu'eux sont vraiment en bas, proches. Puis moi, dans le fond, je suis proche du président. Fait que quand je me lève, je suis vraiment en diagonale avec le président. Fait que je m'adresse au président vraiment très, très proche. Fait que non, j'ai un super bon spot. Tu sais, puis est-ce que ça va être mon spot pendant 4 ans? Mais là, ça dépend. T'sais, tu peux bouger selon les besoins qu'ils ont, selon est-ce qu'ils te donnent un shadow minister de quelque chose. Donc, c'est ça. Mais tu sais, pour l'instant, ma place est géniale. Tu n'as pas le droit de parler en chambre si tu n'es pas assis à ta place.
Et vous avez des traductions simultanées. Est-ce que c'est de même, est-ce que c'est comme ça pour tout le monde? C'est-à-dire quand un député comme toi du Québec décide de parler en français, faire une intervention en français, tous les autres députés qui sont à l'Assemblée, à la Chambre des communes, devrais-je dire, eux autres, ils ont la traduction simultanée en anglais?
En anglais, français, donc c'est bilingue. Le Parlement est 100% bilingue. Donc tout ce qui va être fait va être traduit. Moi, je parle jamais en anglais en chambre parce que j'ai rien gagné à parler en anglais en chambre. Puis au contraire, je veux faire rayonner le français. Donc moi, je parle toujours en français en chambre. Puis le reste des députés vont avoir leur oreillette qui est traduite simultanément. Puis là, quand, mettons, le ministre, il m'écoute, là, hop, il va se lever puis ils vont me répondre. Donc oui, c'est tout le temps simultané. Donc tout est bilingue, tout est fait en français et en anglais dans les deux langues officielles. C'est comme ça que ça fonctionne au
Okay.
Parlement.
On va faire une courte pause, Gabriel, et on revient tout de suite. On a le plaisir ce soir de jaser avec Gabriel Hardy, député conservateur de la circonscription Montmorency-Charlevoix.
Marceau, le soir. Ton nouveau réflexe en te réveillant le matin, c'est d'écouter Marceau le matin. Marceau le matin.
Denis, j'ai quelque chose à t'apprendre.
Oui?
Max a une blonde.
Ouais, mais elle, c'est pas.
Il y avait un party en fin de semaine.
Elle sait pas.
Il était cap, puis il y avait un couple, de ce que j'ai compris. Fait qu'ils ont dormi ensemble. Il était gentleman, par exemple. Il a dit à la dame qui était là, prends le lit que j'étais supposé d'avoir, moi je vais aller dormir sur le divan.
Oui.
Et là, il a écrit.
À titre informatif, si ton ami dort avec Demidov, je dors sur le divan où je peux prendre un côté de lit, sens-toi bien à l'aise. Tu fondes pas de l'espoir là-dessus, là. Hey, t'as été coq-bloqué, man!
Marceau le matin! En semaine, 6 heures.
Attention, préparez-vous pour un match de football spectaculaire du Rouge et Or. Ne manquez pas le rendez-vous ce dimanche 5 octobre dès 13h au Stade TELUS de l'Université Laval. Le Rouge et Or affrontera les Stingers de Concordia.
Go, Laval, go!
En plus, on soulignera les 30 ans du club de football Rouge et Or. Soyez-y, on vous attend le dimanche 5 octobre à 13h au Stade TELUS.
IGA vous aide à économiser chaque semaine. Si vous n'avez pas reçu votre circulaire par la poste, découvrez les offres sur l'appli ou à IGA.net. IGA, vive la bouffe!
Béarnais, c'est une grande famille de plus de 200 passionnés qui, en prenant grand soin de votre véhicule, prennent d'abord soin de tous ceux qui montent à son bord. Parce que rouler en confiance et en sécurité, c'est juste parfait.
Du 6 au 12 octobre, obtenez l'installation gratuite et une remise postale de 85 $ à l'achat de 4 pneus Michelin sélectionnés, une offre exclusive .S. Les pneus Michelin, pour une confiance ultime sur route enneigée et glacée. Détaillez rendez-vous sur desharnais.ca.
Desharnais, c'est juste parfait.
Un bébé, un marathon ou une mauvaise posture au bureau, peu importe votre défi, Kinatex est là pour vous aider à mieux bouger et à vivre pleinement. Une équipe multidisciplinaire, une prise en charge rapide et une qualité de traitement incomparable. Kinatex Sport Physio, votre référence en physiothérapie et en réadaptation.
C'est la grande vague chez Pomerlo les bateaux. Profitez de rabais de fin de saison. Réservez dès maintenant votre modèle 2026 en précommande et découvrez nos liquidations en inventaire. C'est le moment pour préparer la prochaine saison. Jusqu'au 31 octobre, chez Pomerlo les bateaux à Rivière-du-Loup, Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier et Sherbrooke.
Depuis plus de 10 ans, l'Institut Diva prend soin de vous de la tête aux pieds. Découvrez notre nouvelle adresse au 3175 Chemin des Quatre Bourgeois. Nouveau décor, même équipe passionnée et soins de pointe comme l'hydrafacial et la madérothérapie. Prenez rendez-vous institutdiva.com.
Retraite Québec présente le brin de sagesse de Leïla.
Avec les enfants, l'hypothèque et toutes nos dépenses, je vivais pas mal au jour le jour et j'avais arrêté de mettre de l'argent de côté. Mais là, j'ai décidé de recommencer. J'ai trouvé un outil pas mal pratique, Simulaire. Ça m'a aidé à calculer combien je devais épargner pour ma retraite. Avoir un objectif, ça aide vraiment.
Pour récolter assez de blé à la retraite, il faut planifier et poser les bons gestes. Visitez notre site web pour essayer Simulaire. Un message de Retraite Québec.
Tu veux le nouvel iPhone 17 avec son design réinventé et la puissance à son apogée? Achète-le chez Horizon Mobile Détaillant TELUS et tu pourrais le gagner! Jusqu'à 1 200 $ remboursés et c'est en cours maintenant! Exclusivement à vos succursales Horizon Mobile sur Pierre-Bertrand et Saint-Romuald.
Papa, est-ce que tu sais si les étoiles s'ennuient quand c'est le jour? Papa, pourquoi les minutes sont plus longues quand on attend? Papa, est-ce que mon cerveau dort pendant que je rêve? Papa, si je saute très fort, là, est-ce que la Terre va sentir quelque chose?
On peut pas vous aider avec toutes leurs questions. Mais pour les questions d'argent, la Caisse scolaire a des réponses en or pour vous aider à transmettre à vos enfants des connaissances financières qui leur serviront toute leur vie. Téléchargez l'appli.
Ce dimanche 5 octobre, les Galeries La Capitale présentent le Festi Mascotte au profit de la Fondation Réno Jouet. Plus d'une vingtaine de mascottes vous attendent avec un défilé et une fanfare dès 10h. Un rendez-vous familial à ne pas manquer. Détails au galerielacapitale.com.
Ici Nathalie Clark, porte-parole pour Miville Climatisation Chauffage, le leader en géothermie depuis 25 ans. Avec les systèmes géothermiques Water Furnace, profitez d'un confort durable, d'une efficacité inégalée et de subventions exceptionnelles. Jusqu'à 54 000 pour une nouvelle installation et jusqu'à 18 000 $ pour un remplacement. Économie d'énergie, respect de l'environnement et expertise certifiée, c'est ça la différence Miville. Miville Climatisation Chauffage, votre confort, notre priorité. Appelez-nous dès aujourd'hui ou visitez miville.ca.
Nokian Tires, c'est un parcours exceptionnel. Et jusqu'au 20 décembre, recevez jusqu'à 100 $ de remise à l'achat de 4 pneus sélectionnés. Les pneus Nokian Tires, disponibles chez votre détaillant Autobox.
L'application Boulevard, dans une poche près de chez vous. Poche de jeans, poche de shorts, pis même ta poche d'hockey. Appelez, textez, votez, réécoutez. L'app Boulevard 102.1. C'est plus que du rock. Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le soir.
Le député conservateur de Montmorency, Charles Lavoie, député fédéral Gabriel Hardy, est avec nous ce soir. Merci de prendre le temps, M. Hardy, de s'adresser aux gens ordinaires une fois de temps en temps. C'est très, très apprécié.
On est votre égal. Tout le monde est égal. On a chacun notre travail dans la vie. Tu sais, Yann, moi, je viens, mon père était maçon. J'ai grandi, j'ai travaillé sur les chantiers de construction quand j'étais jeune. Puis j'étais dans le département de médecine à l'Université Laval. Puis il y a un gars de construction qui m'a dit « Qu'est-ce que tu fais avec nous autres, toi, ici? T'es en médecine à l'Université Laval comme futur kinésiologue, puis t'es avec nous autres à poser de la brique. » Puis j'y avais dit « Man, je dis peu importe avec qui t'es dans la vie, là, d'après moi, le propriétaire de cette belle maison-là, là, ben, il n'est pas dehors en train de poser de la brique parce que lui, il fait d'autres choses. On est tous égales. On a chacun notre rôle dans la vie. » Puis trop souvent, le monde me dit « Ah, à cette heure, t'es rendu dans les hautes sphères, pas en tout. » Moi, je suis ici pour représenter les gens. Je suis comme tout le monde. Ça prend du monde au Parlement. Ça prend des gens qui vont jouer dans la mécanique automobile. Ça prend des gars de construction. Ça prend des troqueurs. Ça prend des médecins. Ça prend des ingénieurs. Ça prend de tout pour une société. Puis on est tous égaux. On est dans la même équipe.
Ah, ben ça fait du bien d'entendre ça. Tu as décidé de te lancer en politique pour faire la promotion du sport, faire la promotion de la santé. Jusqu'à maintenant, tes objectifs, est-ce que tu es en train de travailler là-dessus à la Chambre des communes?
C'est un des objectifs, une des raisons, puis tu le sais depuis longtemps, là, mon message sur la prévention puis l'importance de l'activité physique dans la santé de la population. On vit une des pires crises de l'humanité. Hein. Nos enfants sont projetés pour vivre moins longtemps que nous pour la première fois de l'histoire du monde. Et ça passe par les maladies chroniques. On a beaucoup trop de maladies chroniques. Et l'activité physique et le sport est clairement une solution. Puis moi, je veux l'amener dans le Parlement. J'ai déjà gagné d'avoir une question par semaine en Chambre des communes pour challenger le gouvernement sur le manque d'investissement et le manque de leadership en matière d'activité physique. Alors ça, c'est déjà un gros gain. Pour une première fois, là, c'est jamais arrivé. Puis j'en jasais avec le ministre du Sport, qui est le secrétaire d'État au sport, Adam Van Coverden. Puis il me disait, c'est comme, wow, enfin, on parle de sport dans le Parlement. C'était jamais arrivé. Puis j'essaie vraiment de faire le lien. Comme je lui disais à Adam, les gens associent le sport à l'élitisme, aux Olympiques, puis au fait que c'est plaisant, mais pas essentiel. Je dis l'activité physique, par contre. Si notre société bouge plus et on la connecte avec la santé, puis je dis qu'il faut qu'on s'assoie avec la ministre de la Santé, c'est là qu'on va faire changer les choses. J'ai un projet de loi qui s'en vient, que je vais pousser dans le Parlement, que j'espère qu'il va passer. Si ça passe, ça va être une première, parce que, encore une fois, un jeune député comme moi, là, c'est très rare que les projets de loi passent vite comme ça. Mais je vais travailler très fort là-dessus, un projet de loi qui va mettre l'activité physique au cœur des solutions nationales. On le sait que c'est un enjeu provincial, le sport et l'activité physique. Normalement, c'est la province qui va faire ses décisions, qui va investir. Par contre, puis moi, je ne suis pas le gars qui veut aller commencer à dire aux provinces quoi faire. Tu sais, les conservateurs, on est pour l'autonomie des provinces. Mais je crois que le Canada a un rôle de leader à jouer en matière d'activité physique et de sport. Je crois que le Canada peut faire de la publicité d'industrie pour dire aux gens, bien, je dis d'industrie, mais de la publicité sur l'activité physique. Je crois que le Canada peut donner des crédits de taxes. Tu sais, je pense qu'on est capable d'aider les citoyens et les encourager à bouger et à les féliciter à le faire. Puis ça, je pense que le Canada a un rôle important à jouer là-dedans.
Est-ce que il y a des moments précis où vous pouvez parler de sport et de santé à la Chambre des communes où faut indiquer, bon, hey, j'ai l'intention de parler de tel dossier, puis j'aurais peut-être besoin de plus que 30 secondes?
Ben, écoute, comme tu dis, mettons, exemple, ma question sur le sport à chaque semaine, l'activité physique, on m'en donne une.
Okay.
Par contre, la semaine passée, j'ai posé une question c'était sur le coût de la nourriture, mais je l'ai quand même tweaké, elle va sortir cette semaine normalement, sur le fait que un des piliers de la longévité, si tu veux vivre en santé longtemps, c'est de bien manger. Donc, je suis capable des fois de ramener une question puis de la mettre à la sauce santé puis à la sauce amélioration de la santé avec une question qui est sur un autre sujet. Je peux faire aussi ce qu'il appelle un SO31. Ça, c'est une déclaration du député. Au lieu d'avoir 30 secondes, tu as une minute. Ça, c'est avant la période de questions, tu te lèves et là, tu vas faire un discours qui va positionner ton parti ou positionner toi sur un sujet. Donc, je n'ai fait un sur le colloque santé citoyen qui a eu lieu à Charlevoix, où est-ce que des citoyens se sont rassemblés pour dire « Hey, c'est-tu quoi? On comprend bien que le fédéral puis le provincial là, peuvent essayer de nous aider, mais pourquoi on n'essaie pas de s'aider nous-mêmes en premier? » Et là, les citoyens se disent « Crime, on va faire dans l'autre sens. On va pousser vers les gouvernements au lieu d'attendre qu'eux investissent. » Puis ça, bien, j'en ai parlé au Parlement, j'ai remercié l'organisation. Donc, tu sais, c'est une autre manière de pousser des messages. Ou des, là, si on fait un débat, puis là, j'espère avoir le débat sur la santé dans le Parlement prochainement, bien là, les débats, c'est 10 minutes.
Oh, OK.
Là, tu te lèves, puis tu fais un discours de 10 minutes et tu as 5 minutes de questions. Fait que là, tu parles pendant 10 minutes, tu amènes toutes tes étapes, ton sujet, tes arguments, puis tout ça. Puis après ça, tu te fais challenger par les libéraux, par le Bloc et par le Parti conservateur sur qui te pose des questions sur qu'est-ce que tu en penses. Fait que dans le fond, tu es 15 minutes de temps à parler dans le Parlement d'un sujet. Et ça, je vais essayer d'avoir quelque chose sur la santé puis l'activité physique au courant des prochains mois.
C'est très bon. Imagine-toi, là, dans les prochains mois, les prochaines années, tant le municipal que le provincial que le fédéral vont de l'avant avec des trucs sur la santé, sur la promotion de la santé, essayer de faire bouger les gens, la grandeur du pays. Ce serait de toute beauté. Des initiatives un peu plus locales. T'sais, Pierre Lavoie, c'est une initiative locale qui s'est étendue à l'échelle nationale. Mais des Pierre Lavoie, il n'y en a pas des millions qui font ça à travers le Canada. C'est des Gabriel Hardy qui veulent promouvoir la santé puis qui décident de mettre de côté un peu sa job d'entrepreneur puis à la limite faire un peu moins d'argent puis aller au fédéral pour aller en politique pendant 4 ans pour essayer de promouvoir ça. Vous êtes pas tant à vouloir réaliser ces choses. En fait, vous êtes plusieurs à vouloir réaliser ça, très peu à le faire réellement.
Je pense que le gros enjeu, puis c'est là que j'ai essayé de m'infiltrer là, ou de m'immiscer dans l'aventure, c'est qu'il y a été longtemps où est-ce que l'activité physique et le sport, c'était pas un enjeu politique, parce que les gens n'étaient pas prêts à voter pour ça. Et là, moi, j'ai décidé de m'impliquer parce que je crois qu'on a un timing où est-ce que les gens le reconnaissent, puis sont prêts à voter. Peut-être pas, tu sais, je veux dire, ça sera peut-être pas l'enjeu de l'urne, mais certainement qu'un parti qui se positionne pour comprendre qu'on a un ministère de la maladie, puis il serait temps qu'on ait un ministère de la santé, qu'on a des approches curatives, mais qu'il serait temps qu'on parle de comment améliorer la santé puis prévenir les maladies chroniques. Je pense que les gens commencent à comprendre qu'ils ne veulent pas aller à l'hôpital. Puis ils aimeraient savoir comment rester en santé le plus longtemps possible. Et ça, ce débat-là, il doit rentrer dans les parlements, que ce soit municipal, provincial, fédéral. Il est plus que temps qu'on en parle. Puis moi, c'est une manière que je l'amène. Puis tu sais, on parlait des comités tantôt. Ça, c'est l'autre manière que tu peux essayer de faire avancer les choses. Bien, moi, là, je vais essayer avec le comité de la santé de pousser pour faire venir des Pierre Lavoie, de faire venir des Jean-Luc Dupuis, le docteur qui a fait le colloque santé citoyen. Puis, tu sais, un docteur de 40-quelques années d'expérience qui a été vraiment dans l'amélioration de la santé toute sa vie, qui a vu les problèmes du système avec le curatif seulement, puis qui a le goût de venir témoigner, tu sais, autour de la commission, là, de se faire poser des questions pendant une heure, puis de donner des conseils, puis d'amener le monde à réfléchir pour que les parlementaires prennent des décisions dans le sens de la santé au lieu de prendre des décisions dans le sens de la maladie. Puis ça, c'est notre rôle. Puis je pense que plus on va être à lever le bras pour dire « Hey, il est temps qu'on sauve les humains, là. On est rendu là. » Tu sais, c'est grave ce que je dis là parce qu'on devrait avoir une priorité en tant que société de ne pas accepter que nos enfants vivent moins vieux que nous, de ne pas accepter que les maladies chroniques qu'on se crée nous-mêmes à force d'inactivité physique et de sédentarité sont en train de tuer nos générations. La maladie physique, la maladie mentale, qui est un énorme sujet, là, mais qu'on a une solution, mais on préfère attendre les médicaments, puis on préfère que nos hôpitaux se remplissent au lieu de remplir les gyms, de remplir les jogging extérieurs, de remplir les kinésiologues avec du bon travail, tu sais, avec des gens qui pourraient nous diriger sur toutes sortes de choses qui vont faire en sorte qu'on va être plus en santé, remplir les bureaux de nutritionnistes. Donc ça, pour moi, c'est vraiment un enjeu qui est plus que temps qu'on amène. Puis je suis content que toi, exemple, tu me donnes souvent la chance d'en parler parce que c'est comme ça que les gens vont se dire « crime, oui ».
C'est primordial, c'est de travailler en amont, Gab. C'est que du logique que tu nous amènes constamment. Travaillons en amont, travaillons avec nos enfants, faisons bouger nos enfants, empêchons nos enfants. Tu sais, en fin de semaine ou c'est hier ou avant-hier, je ne me rappelle pas, je suis un peu perdu dans le temps avec mon horaire du matin, je me lève à 2 heures, là, c'est pas facile rendu à cette heure-là. Là, j'ai appris, puis quand j'ai jasé avec les jeunes autour de moi, je me suis dit « OK, les autres sont au courant depuis un bon bout. Qu'à cette heure, tu peux acheter un genre de coton là, dans lequel on a mis de la nicotine et tu te glisses ça entre la lèvre et la gencive, puis tu laisses ça, puis là, ça libère de la nicotine. » Fait que ça, c'est comme la nouvelle frénésie chez nos jeunes là, qui veulent pas se faire prendre à vapoter ou à fumer à l'école. Ben, ils se mettent ça à l'intérieur de la bouche, puis ils passent du temps avec ça, puis ça libère de la nicotine, puis là, ils ont le sentiment comme apaisant. Mais si on leur montrait d'autres façons pour apaiser justement leur stress ou leur anxiété, comme faire du sport, faire de la marche, pour aller marcher en nature, tu sais, plus tu fais la promotion, Gabriel Hardy, sur les ondes de radio ou encore sur Internet, ou encore au Parlement à Ottawa, plus il y a des jeunes qui vont être conscientisés et surtout des parents qui vont prendre conscience que leurs enfants ne sont pas sur la bonne traque.
Ben, tu sais, puis tu amènes tellement un bon sujet. Un, il faut en parler plus. Deux, il faut aussi stimuler, parce qu'on parle tout le temps du sport et de l'activité physique chez les jeunes, mais il est plus que temps qu'on inspire nos adultes. Puis je suis allé à Aricana, qui était dans Charlevoix. C'est une genre de... Le trail, là, c'est rendu super connu, là, les ultra-trails et tout ça. Puis ils font des petites courses pour que les parents courent avec leurs enfants. Je suis allé à la grande course chez les jeunes là aussi à Bois-Châtel cet été. Puis c'est la même affaire, je dis aux parents, merci. Merci d'être là puis de montrer à vos jeunes que papa puis maman courent, papa puis maman font de l'activité physique. Papa puis maman se mettent dans des situations où est-ce qu'ils ont chaud. Puis OK, parfait, mais ils prennent soin d'eux. Trop souvent aujourd'hui, le sport est devenu un sport spectacle. Les jeunes le jouent, puis les parents prennent une bière en regardant le soccer, en regardant le hockey. Puis c'est devenu, on mange de la poutine, puis on prend une bière, puis c'est les jeunes qui bougent. Fait que quand je suis jeune, je bouge.